La priorité de la musique. Cette section est une des sections clés, car la première chose qui est enlevée à la musique pour la corrompre est son importance. Avant de renier les lois de la musique et de son bon fonctionnement, une nation ou un individu doit d'abord en mépriser son importance. Quand la valeur de la bonne musique baisse aux yeux d'une société, cette même société se retrouvera quelques générations après avec des sons musicaux qu'il aurait été difficile de s'imaginer. Voyons donc, d'après la parole, la priorité qu'on doit donner à notre musique. Le service musical dans l'Ancien Testament nous donne une bonne idée de quelle priorité nous devrions donner à la musique. Ainsi, regardons en arrière pour faire quelques observations. D'abord, qui étaient les musiciens? Selon 2 Chroniques 5:12, on apprend qu'ils étaient tous lévites ou sacrificateurs. Ceci implique qu'ils connaissaient la loi par cœur et qu'ils avaient au moins 30 ans. Ils étaient par conséquent fondés dans la parole de Dieu et matures. Selon 1 Chronique 25:7, ils étaient exercés au chant de l'Éternel. Ce terme en hébreu indique clairement qu'il y avait instruction, enseignement et apprentissage. Ils étaient, par conséquent, dûment formés pour leur ministère. Il faut donc conclure que la musique leur était importante puisque leurs musiciens n'étaient pas n'importe qui. À ce niveau-là, peut-être juste un petit commentaire. Souvent, nous voyons aujourd'hui que des musiciens inconvertis se repentent de leurs péchés et se convertissent et qu'ils entreprennent tout de suite un ministère musical sans avoir pris le temps de se former, d'être imbibé de la parole, d'avoir étudié profondément dans une école biblique. Et par conséquent, souvent, ils ne vont pas être prêts à pouvoir donner un ministère qui va bien glorifier Dieu parce qu'ils sont un peu superficiels dans leur enseignement. Nous devons faire attention à qui nous choisissons comme nos musiciens. Parce que, rappelons-nous, la musique, c'est important. L'ordre ou le fonctionnement du service musical était précis et la confusion ne régnait point. Esdras 3:10 dit « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. » Retenons ce « d'après les ordonnances de David, roi d'Israël ». Des centaines d'années après, le critère était encore l'ordre qu'avait instauré David. Néhémie 12:4 mentionne aussi que les chefs des Lévites étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Mais selon 2 Chroniques 29:25, on apprend que cet ordre du service que David avait instauré ne venait pas en fait de son imagination, mais de Dieu lui-même. 2 Chroniques 29:25 dit « Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. » Il est donc à retenir que tout le service méticuleux que les Lévites faisaient était voulu par Dieu. Peut-être il serait bon d'apprendre sur eux. Les musiciens n'en faisaient pas à leur tête non plus. David avait nommé des chants pour diriger le service musical du temple. Les musiciens, des Lévites, prenaient leur ordre de leur chef, qui eux prenaient leur ordre de David, qui lui prenait ses ordres de Dieu par ses prophètes. Alors, il y a bien une structure d'autorité qui était établie. Rappelons-nous que la seule autorité établie dans le Nouveau Testament, par rapport à un chrétien face à Dieu, à part le gouvernement et la famille, est l'Église locale. Quand nous avons des musiciens qui ne sont aucunement contrôlés par une Église locale, souvent ces musiciens peuvent s'écarter de la bonne voie sans pour autant arrêter leur ministère. Alors rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, il y avait une structure d'autorité établie, des principes et un ordre à suivre. Troisièmement, nous observons les fonctions des chantres et des lévites. Une des fonctions de base était la louange du Seigneur. En Chronique 16, 4 et 5 dit, il, David, remit à des lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, etc. Il avait des instruments de musique, des luths et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Peut-être pour vous donner un aperçu plus global, les cymbales, on croit que ces personnes dans ce temps-là utilisaient les cymbales pour diriger la musique. Alors Asaph donnait le rythme, donnait le tempo avec ses cymbales à toute la chorale. Aussi, il travaillait vraiment à temps plein. En Chronique 3, 9, 33 dit, ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions, parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Deux Chroniques 35, 15 dit, les chantres, fils d'Asaph, étaient à leur place. Selon l'ordre de David, d'Asaph, d'Héman et de Jedutun, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui était pour eux. Dans ces trois passages, entre autres, nous observons à quel point la musique était une priorité pour les Juifs. Ils faisaient tout pour que leurs musiciens se consacrent vraiment à temps plein, sans distraction. Ils ne méprisaient aucunement l'importance de la musique. Il y a quelques églises baptistes en Amérique du Nord qui suivent ce modèle. La deuxième personne qu'ils embauchent après le pasteur est un directeur de la musique pour mettre sur pied un bon enseignement et un bon programme sur la musique. Ces quelques églises reconnaissent l'importance de la musique et de la louange de Dieu. Aussi, ils enseignent leurs membres régulièrement sur la musique. Je pense que ces églises sont des bons modèles aujourd'hui, car en général, les quelques dernières générations de chrétiens jusqu'à aujourd'hui néglige un peu l'importance d'un bon programme et d'une bonne éducation musicale. Aussi, 1 Chronique 16,6 nous dit, les sacrificateurs Benaja et Jazaël sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. On se rappelle qu'on avait déjà mentionné que Dieu demeurait dans la présence musicale. Et les Juifs reconnaissaient cela. Psaume 22,4 dit, pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et littéralement, c'est tu sièges au milieu des louanges chantées d'Israël. Dieu aime que son peuple le chante et le loue constamment. Pour lui, la musique est importante et par conséquent, elle doit l'être aussi pour son peuple. Une dernière fonction est donnée dans 1 Chronique 25,1. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman et de Jedutun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. On voit souvent un rapport entre prophétiser et jouer de la musique dans l'Ancien Testament. Vous voyez dans ces quelques passages 1 Samuel 10, 5, 2 Rois 3, 15 et 16 par exemple. On peut donc conclure cette section sur leurs fonctions en disant qu'ils prenaient au sérieux leur service musical envers leur Dieu. Quatrièmement, on observe le résultat du service des chantres du temple. Deux Chroniques 5, 11 à 14 dit. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph et mangés du thym, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. On observe donc que quand Israël mettait une bonne priorité sur la musique, et quand leur musique était ordonnée, parce qu'il dit, ils s'unirent d'un même accord, il dit, Dieu était plus que content. Il révéla sa gloire. Finalement, on peut remarquer le résultat de la négligence de l'importance de la musique. Quand Israël est tombé en décadence morale, la priorité qu'il mettait sur la musique auparavant a disparu. Amos 6:5 dit par exemple, « Ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. » Cette expression « extravague » reflète très bien l'idée exprimée en hébreu. Le terme employé inclut l'idée de improviser, de dire des paroles en l'air ou méprisantes, d'être oisif, insouciant. Et ça, il l'était au son du luth. Que fut le résultat d'extravaguer oisivement au son des luths et de ne pas prendre au sérieux la musique ou leur service musical à Dieu? Amos 5:23 nous donne la réponse. Dieu qui parle à son peuple, il dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. » Dieu a rejeté les sons même de son peuple. Il est intéressant que ce terme « son de musique » ou « son de tes luttes » ne se retrouve que et toujours dans un contexte que Dieu juge la musique d'un peuple. En général, ce n'est pas son peuple, mais Babylone ou Tyr, comme nous avons déjà vu. Mais ici, Dieu rejette la musique même de son peuple. Ainsi, mes frères, ne prenons pas notre musique et notre adoration d'une manière oisive. Ne tombons pas dans l'extravagance comme les Juifs l'ont fait. Plutôt, suivons le modèle de David, qui a compris comment son Dieu aimait la musique et la louange qui lui était due et a établi des chantres à temps plein qui ont pris au sérieux leur service musical. N'oublions pas que notre service musical personnel est de chanter de tout notre cœur à notre Dieu d'une conscience pure. Quatrièmement, un bon reflet des doctrines de base. Un autre critère ou principe qui, quand appliqué, va protéger notre musique de la corruption et du malin, est un bon reflet des doctrines de base. En premier lieu, le salut. Tout à travers les cantiques qui nous sont donnés dans la Bible, nous trouvons toujours que Dieu est élevé et que l'homme est abaissé. Toujours les cantiques, comme Exode 15, 1 à 19, Juges 5, 2 à 31, Samuel 22, 2 à 51, et tous les psaumes, toujours les cantiques élèvent Dieu dans sa grandeur, sa gloire, sa bonté, sa grâce, etc., et remet l'homme à sa position de pécheur infidèle, ayant besoin de la grâce de Dieu. Aussi, nos cantiques doivent nous remettre en position d'humilité face à notre Dieu. Dieu doit être le centre de nos cantiques, non l'homme. Et en effet, quand on observe autour de nous, beaucoup des chants contemporains sont centrés sur l'homme, ses besoins, et présentent Dieu comme quelqu'un qui satisfait l'homme, qui le rend meilleur, qui va le remplir. Et tout cela est bien vrai. C'est vrai que Dieu va satisfaire l'homme, qui va le rendre meilleur, qui va le remplir. Mais l'homme ne se convertit pas en vue de son bien uniquement, d'une manière égocentrique, mais bien plutôt par soumission à la volonté de son Dieu. Aussi, nos chants doivent refléter cela et nous amener à l'humilité. C'est pourquoi notre musique doit refléter notre position face à Dieu. Deuxièmement, la doctrine de la sanctification, séparation, doit être mise en évidence dans notre musique. Même passage nous exhorte à la sanctification, à la pureté et à la séparation d'avec le monde. 1 Thessaloniciens 4:3 dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de la débauche. » Philippiens 1:9-11 dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Philippiens 2:15 dit aussi « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Je vous encourage aussi de lire Éphésiens 4, versets 17 à 24 et Jean 1, 18 à 20 et 17, 14 à 19 qui vont traiter le sujet avec force. Il y a certaines mauvaises philosophies qui courent, qui négligent cet aspect de la saine doctrine. Une se dit que pour sauver le monde, sauver le perdu, il faut le joindre, être là où il est pour l'atteindre, jouer sa musique, s'habiller comme lui, ne pas le choquer par un style de vie différent. Le problème est que Christ appelle les inconvertis à se séparer du monde à Christ pour être sauvés. Au lieu d'amener le monde à être transformé, les chrétiens deviennent comme le monde, ou plutôt ces chrétiens qui ont une telle philosophie. Vous pouvez voir dans votre petit livret l'illustration que j'ai fait à ce sujet. Comme pour le sable mouvant, ce n'est pas en allant vers celui qui s'engouffre dans le sable qu'on va l'aider, mais plutôt en restant sur la terre ferme, sur le rocher solide qui est Christ, qu'on va pouvoir l'aider à en sortir. Une deuxième philosophie qui court couramment parmi nous est encore quant à la séparation avec le monde. Cette philosophie est celle qui se dit « Jusqu'où peut-on s'approcher du monde sans se faire avoir ?» Vous le remarquerez. On ne se demande pas où est le lieu le plus sûr. Notre critère n'est plus d'être irréprochable et pur, avec un discernement pour les choses les meilleures, mais de se limiter à ce qui n'est pas si pire, ce qui n'est pas trop grave, d'écouter une musique qui n'est pas le pire au monde, de s'habiller un peu, mais pas trop, comme le monde. C'est un changement complet de focus. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'imiter les Hébreux dans le désert qui regardaient en arrière vers les oignons et la belle vie qu'ils avaient en Égypte. Ils ont oublié l'esclavage, par exemple. Vous voyez l'illustration dans le petit livret. C'est comme cet homme qui est au bord d'une falaise et qui essaye de s'approcher le plus du bord, sans toutefois tomber. Mais il ne remarque pas qu'il y a un glissement de terrain et que peu à peu il s'engouffre. Cet homme est un chrétien typique, qui regarde vers le monde et essaye de s'en approcher le plus possible, sans pourtant aller dans le monde. Il ne remarque pas qu'il est en train de glisser. Notre philosophie de vie quant à la séparation d'avec le monde va se refléter dans notre musique. Ou encore, la musique qu'on décide d'écouter va former en grande partie notre philosophie par rapport à la séparation d'avec le monde. C'est pourquoi notre musique doit refléter notre position face au monde. Avant d'entreprendre notre section pratique, j'aimerais vous faire écouter un dernier extrait de notre cassette Majesty Strings. Ça s'intitule « My God is a Righteous God ».
Thank you.
J'aimerais répéter que c'était la gracieuseté de Musical Ministries. Ils nous ont donné la permission de pouvoir jouer ce morceau de musique. Nous arrivons à notre dernière section, notre section pratique, nos deux dernières sections. Nous allons voir les caractéristiques du chant nouveau et les règles musicales qui vont comme protéger la musique de la corruption du diable. Ensuite, nous regarderons à quelques caractéristiques du chant de l'insensé. Premièrement, pour les caractéristiques du chant nouveau, regardons à comment la Bible définit ce terme « chant nouveau ». Il y a 9 références qui utilisent ce terme. Elles sont Psaume 33, 3, qui dit « Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos voix ». 40, verset 4, que nous avons déjà lu auparavant, un peu plus tôt dans notre travail. Psaume 96, 1, 98, 1, 144, 9, 149, 1, Ésaïe 42, 10, et Apocalypse 5, 9 et 14, 3. En parcourant chacun de ces textes, vous remarquerez qu'ils sont tous dans un contexte de louange et que ce chant de louange est toujours adressé à Dieu. C'est évident, vous allez me dire. Ce terme est très riche de sens. Nouveau ne se réfère pas à un chant qui vient tout juste d'être écrit, mais plutôt à la nature de la musique, une nature nouvelle, renouvelée, différente. Ce n'est pas comme un paire de sneakers qu'on achète et qui sont nouveaux, mais ça réfère à la nature même de la musique. Le même terme est utilisé pour décrire notre nouvelle nature en Christ. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ce terme utilisé pour « nouvelle créature » est exactement le même utilisé dans l'expression « chant nouveau ». Les versets qui parlent de la nature nouvelle et différente de l'enfant de Dieu se nombrent à 8. Ézéchiel 11, 19, 18, 31, 36, 26. Et ces trois passages-là parlent plus directement d'Israël et que Dieu allait leur donner un nouveau camp, un nouveau nature, un nouvel esprit. 2 Corinthiens 5, 17, Galates 6, 15, Éphésiens 2, 24, 4, 24, Colossiens 3, 10. Nous pouvons donc arriver par extension à cette conclusion. Notre musique doit être autant intrinsèquement différente de la musique du monde que nous le sommes de nature différent du monde. Aussi, maintes fois dans la parole, la musique chantée à Dieu est décrite comme joyeuse. Psaume 98, 4 à 6 serait un bon exemple. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant les rois, l'Éternel. Alors il n'y a qu'un tel témoignage pour Dieu qui frappe les yeux quand il chante d'un cœur tout joyeux. Alors chantez des louanges de tout votre cœur avec une pleine joie de le faire. Quel témoignage merveilleux. Et aussi, ça peut parler que nos cantiques doivent être particulièrement joyeuses. C'est bien, oui, d'avoir des chants qui sont lents et qui nous portent plus à réfléchir, mais aussi d'avoir des chants qui sont joyeux, qui sont entraînants, des cantiques qu'on chante avec un sourire. Ça aussi, c'est bon, c'est très bon. Maintenant, nous allons passer à la section beaucoup plus pratique concernant les caractéristiques de la bonne musique et du chant nouveau. Pour introduire cette section, laissez-moi juste expliquer quelque chose de très important. Tout comme l'homme n'a pas inventé les lois de la physique ni les lois mathématiques, mais les a simplement observées, ainsi l'homme n'a pas inventé les lois de la musique, mais les a simplement observées dans la nature. Ces quelques règles musicales dont je vais parler n'ont pas été inventées, mais sont intrinsèques à la musique elle-même. Aussi, je ne vous ai rien partagé de nouveau à date dans cette présentation, et ce qui suit n'est aucunement nouveau avec moi. J'aurais pu vous citer amplement de livres théoriques musicales pour le démontrer. Mais pour ce matériel, j'ai fait comme une synthèse de ce que manuel que j'avais sous la main apportait. et chacun apportait tout se complémentait, c'était intéressant de tout voir ensemble. Il y a plusieurs composants dans la musique. La première permet de reconnaître un morceau de musique d'un autre. C'est la mélodie. C'est reconnu généralement dans le monde des grands musiciens que la mélodie se réfère au monde de l'esprit, ou à l'esprit de l'homme. Le mot-clé pour la mélodie est toujours balance. Comme vous voyez dans votre livret, les illustrations de balance. Il faut une balance entre l'action de monter et de descendre. Une mélodie qui est toujours montante crée de la tension. Une mélodie toujours descendante crée de la dépression. Alors, il faut une certaine balance. Il faut monter, puis il faut redescendre, puis je vous laisse imaginer la suite. Il en est de même avec le volume et avec le tempo. Avec le volume, c'est le volume fort. Par contraste avec le volume faible, si c'est une musique toujours forte, ou s'il n'y a jamais de volume faible, ça crée de la tension. Et si c'est toujours faible et que ça ne monte jamais, c'est, à un moment donné, ça crée de la dépression. Et avec le tempo, c'est rapide ou plutôt lent. Donc une musique qui est toujours rapide, qui vous porte toujours sur les nerfs, ça va créer de la tension. Et une musique qui est toujours lente crée de la dépression. David Thame a un peu expliqué ce phénomène en disant que notre cœur bat à un rythme entre 65 et 80 battements la minute, et quand il y a une musique qui est toujours en dessous de 65, notre cœur, à un moment donné, commence à s'attendre à ce que ça s'accélère pour que ça rattrape un peu le temps perdu. Et quand c'est toujours plus vite que ce qu'on a l'habitude, notre cœur, à un moment donné, va se dire, là, c'est le temps de te ralentir, là. Alors, il est allé un peu plus en détail que je peux le faire présentement, mais c'est intéressant comment il a fait des recherches scientifiques et ça explique scientifiquement ces phénomènes-là. On peut bien sûr avoir une musique qui est de caractère rapide, mais si le morceau est bien écrit, il va y avoir au moins une section qui est ralentie pour relaxer. Vous remarquerez dans les extraits que je vous ai montrés, dans les morceaux que je vous ai fait écouter, c'était plus rapide, c'était plus lent, c'était plus rapide. Ça avait comme une balance entre les tempos. De même, il peut y avoir une musique de caractère plus relaxante et plus douce. Mais à un moment donné, si elle est bien écrite, elle va accélérer un peu pour rétablir l'équilibre. Je ne dis pas qu'il faut absolument que ça soit égal, le volume fort et le volume bas, mais qu'il y ait un peu des deux pour créer l'équilibre. Je vais vous faire écouter un court extrait de Beethoven, L'Empereur. Alors c'est une musique qui est plutôt de caractère forte, puissante, mais vous allez remarquer comment il va mettre beaucoup de sections qui relaxent pour nous permettre de supporter ces moments beaucoup plus intenses. Thank you. Alors j'espère que vous avez remarqué comment il a commencé fort au début, peu à peu il s'est calmé. Il y avait une petite section où est-ce qu'il était très calme et là il a mis de l'ampleur au fur et à mesure, il a fini avec beaucoup plus de tension à la fin. Alors ça c'est un exemple comment on doit avoir une balance entre un volume, un tempo fort et un volume et un tempo moins fort. Aussi, il doit y avoir une balance entre la répétition et le contraste. La répétition dans un morceau lui donne une unité. Le contraste lui donne une variété. Sans unité, il y a chaos. Le morceau ne fait pas de sens. Ce sont des notes individuelles qui sont simplement attachées ensemble, ce qui fait un vrai chaos. Sans variété, il y a léthargie ou hypnose. C'est la répétition tout simple. Il y a beaucoup de musiques aujourd'hui qui sont écrites avec la répétition. Ils veulent juste donner une petite phrase et ils vont la répéter, l'ancrer parce que vous remarquerez comment la répétition est beaucoup trop utilisée parce qu'il n'y a pas assez de variation. Alors prenez par exemple la forme de la plupart des cantiques dans le Célébrons Dieu ou même sur les ailes de la foi. Les cantiques sont souvent sous cette forme. Il y a une introduction d'une phrase mélodique, là, la mélodie. Il y a une répétition de cette phrase, une variation qui va apporter un climax et finalement une récapitulation de la phrase qui va nous indiquer que c'est la fin, qui va nous mettre au repos. Toutes les grandes classiques suivent ce principe de répétition et contraste. En deuxième lieu, il y a l'harmonie. On reconnaît généralement dans le monde musical que l'harmonie se réfère au monde de l'intelligence, à l'âme de l'homme. C'est ce qui va lui donner du sens dans un sens, d'un côté, comme on peut le voir. L'harmonie enrichit la mélodie et lui donne de la profondeur. Ça serait comme lui donner une troisième dimension. Aussi, suivant cette ligne de pensée, l'harmonie doit toujours être la servante de la mélodie. La mélodie doit avoir la prééminence sur l'harmonie. L'harmonie n'est là que pour, en quelque sorte, faire ressortir la beauté de la mélodie. L'harmonie doit suivre les règles d'accord aussi. Je ne prendrai pas le temps d'expliquer ces règles, elles sont assez complexes. Je vous donnerai simplement des exemples de bons accords et de mauvais accords. Et je ne pense pas que vous aurez de la difficulté à reconnaître celles qui sont bonnes et celles qui sont mauvaises. J'espère que vous avez pu reconnaître celles qui sonnaient bien l'oreille et celles qui ne sonnaient pas bien l'oreille. Cela, entre autres, nous démontre comment c'est vrai que ce n'est pas l'homme qui a inventé les règles de la musique, mais les a simplement observées et formulées d'après ce qui était naturel. Dans la musique, il y a deux sortes d'accords. Celui qui se résout et celui qui ne se résout pas. Essayez de les reconnaître. Alors, si je vous jouais ce petit extrait, dites-moi si ça finit par un accord qui se résout. Alors, je vous laisse répondre à vous-même. Ce deuxième extrait, dites-le à vous-même, là, si l'accord à la fin se résout. Le premier vous laissait un peu suspendu dans l'air. Le deuxième, j'espère du moins, vous a laissé reposer. Vous saviez que c'était fini. Et par définition, un accord qui ne se résout pas est un accord qui vous laisse suspendu dans l'air, en attente d'un autre accord ou d'une autre note. Un accord ou une note qui se résout
Et c'est un accord qui vous repose, qui vous indique que c'est fini, c'est bien, je suis au repos. Alors la musique va s'amuser avec ces deux accords, de les mêler ensemble, va vous amener à vous attendre à d'autres notes, et tout de suite après vous amener des accords qui vous reposent.